On accueille Olivier maintenant au 39-21. Bonsoir Olivier. Nicolas, pardonnez-moi, je dis Olivier. C'est Nicolas qu'on accueille maintenant.
Oui, bonsoir, bonsoir Olivier.
Bonsoir, ça va bien ?
Ouais, très bien, et vous ?
Très bien, très bien. Vous nous appelez de loin, là ?
Non, du tout, en France.
D'accord. D'accord.
Oui, en fait, je vous contacte, en fait, il y a un de vos collègues qui m'a contacté dans la journée parce que, voilà, je suis un ancien rugbyman professionnel.
Oui.
Je jouais au Japon. Et mon licenciement s'est très très mal passé. Et voilà, en creusant un peu des coéquipiers et moi-même avons trouvé pas mal de malversations de la part de nos dirigeants. Et dernièrement, j'ai eu quelques interviews et j'ai voulu sortir l'histoire publiquement parce que je voulais alerter le monde, entre guillemets, de ma mésaventure dans mon club. Voilà.
Alors. Il va falloir me donner plein de précisions sur ce que vous venez de me dire. Vous êtes donc un ancien rugbyman professionnel.
Oui, voilà, je viens tout juste de prendre, on va dire, ma retraite suite à mon licenciement. Je jouais au Japon.
Oui.
En tant que professionnel, j'étais au Shimizu Blue Sharks cette année. Et j'avais un contrat encore de 2 ans.
Oui.
Et je me suis fait licencier, c'était le 16 mars de cette année. Ça s'est pas super bien passé parce que j'ai eu 10 jours pour quitter le pays et en fait une fois rentré en France j'ai voulu un peu
dénoncer,
tout simplement, ouais, dénoncer ce qui s'était passé, ce que j'avais trouvé de louche dans leur dans la façon dont ils géraient le club et le budget alloué par l'entreprise au club.
D'accord.
Voilà.
Alors, que s'est-il passé ? Parce que le Japon est un pays très spécial. Hein. On le présente souvent comme un pays idéal, hein, où il y a peu de criminalité, alors que c'est totalement faux. Le problème du Japon, c'est que le système législatif et le système de police... La notion d'enquête est reliée à tout ce qui est l'honneur, en fait. Et on ne peut pas commencer à enquêter sur quelqu'un, parce que c'est déjà commencer à lui faire un déshonneur. Donc, je vous dis ça parce qu'il y a peu de temps, j'ai tourné avec une famille de Dijon, et dont un des enfants, qui est une jeune femme de 30 ans, a disparu au Japon. Et aucune enquête n'a été faite sur la disparition de cette jeune femme. Et la famille s'est aperçue qu'aucune enquête n'avait été faite parce qu'on enquête peu. On enquête quand il y a un crime au Japon. Il faut que ça soit pratiquement un flagrant délit ou autrement la suspicion amène le déshonneur, d'où l'attitude des policiers qui ne vont pas enquêter. Et puis alors quand c'est un Français ou un Allemand ou un Anglais qui disparaît dans des conditions plus que douteuses, eh bien il ne se passe rien. Je souligne ça parce que le système de loi là-bas au Japon est particulier. Vous avez dû en faire les frais un peu, Nicolas.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai pas voulu. Enfin, d'une part, j'en ai pas parlé avant. Enfin, quand j'étais là-bas, juste avant d'entrer en France, et surtout quand j'ai essayé d'alerter les médias japonais, on m'a dit que c'était un trop gros scandale et que le journal, les médias en question ne voulaient pas prendre le risque.
Oui.
Et que voilà, quand j'en parlais avec par exemple mes coéquipiers japonais pour voir ce qu'ils étaient prêts à témoigner ou à me dire. Qu'eux trouvaient bizarre ou s'ils avaient déjà entendu ou vu hein, quoi que ce soit. Et c'est vrai que l'omerta règne. Et donc voilà, on a dû surtout s'entraider entre étrangers pour par exemple comparer nos contrats, comparer nos fiches d'imposition, etc. Et voilà, donc c'est vrai que je savais pas vers qui me tourner en si peu de temps quand j'ai dû préparer mon déménagement. Et c'est juste une fois arrivé en France où, parce qu'ils ne voulaient pas payer mes indemnités qui m'étaient légalement dues, où j'ai voilà, envoyé un petit cri d'appel sur Twitter demandant de l'aide, que ce soit des avocats ou des médias. Et le tweet avait été pas mal repris et même remonté jusqu'aux oreilles d'un employé, je pense, de Shimizu, ou un fan du club qui a alerté l'entreprise. Et suite à ça, mon agent, comme par magie, m'a appelé pour me dire que si je voulais obtenir mes indemnités, il fallait déjà d'une part supprimer mon tweet et ensuite poster un tweet de remerciement et que tout était réglé. Voilà.
D'accord, bon, ça annonce la couleur quand même.
Voilà, donc encore des menaces. Et puis, après, j'ai reçu mes indemnités, on va dire. Franchement, dans les 4 heures qui suivaient le tweet, j'ai reçu mes indemnités.
Vous l'avez fait, ce tweet, donc vous avez enlevé votre tweet?
Oui, je l'ai enlevé. J'ai mis un tweet bidon de remerciement, pareil sur Instagram. Et suite à ça, je pense que ces deux personnes-là ont eu un peu le stress et ils se sont dit, bon, il faut qu'on le paye, et puis comme ça, il va se calmer, et puis il va se taire. Sauf que non, pas du tout. En fait, je me suis dit que déjà d'avoir accepté ça pendant un an, c'était trop, et que j'étais une personne entière, et que ça allait à l'encontre de mes valeurs. Du coup, j'ai préféré, me protéger légalement et protéger ma famille. Donc j'ai attendu un peu avant de tout dévoiler, encore une fois, sur Twitter, et ensuite dans le Midi Olympique ou le Figaro notamment. Et c'est vrai que là, ce soir, j'en parle aussi pour essayer d'alerter le plus de monde possible, pour vraiment qu'il y ait une réelle enquête ou investigation au sein de cette entreprise. Je sais que c'est au Japon, c'est difficile,
mais c'est
un peu mon seul moyen, quoi.
Alors, vous faites bien de prévenir sur un média français, et vous pouvez y dire tout ce que vous voulez, en toute liberté, vous le savez. Maintenant, ce que j'ai signalé au début de notre entretien, c'est aussi bon pour vous. Vous savez pertinemment, je pense, en ayant joué et vécu au Japon à un moment, que un Français qui attaque une entreprise au Japon n'a aucune chance d'être entendu ou d'être suivi.
C'est ça. Donc c'est pour ça que je me suis dit, peut-être dans tout ce brouhaha médiatique que je peux faire, peut-être qu'il y aura une personne, et cette personne-là connaîtra peut-être une autre personne qui arrivera à alerter, je ne sais pas, les médias japonais ou quelqu'un d'assez haut placé au sein de Shimizu. Parce que j'ai envoyé une lettre, un email au vice-président de Shimizu, mais bon, il est resté sans réponse, mais ça ne m'étonnait pas trop. Mais c'est vrai que je me suis dit, rien qu'avec un tweet, c'est quand même remonté apparemment jusqu'aux oreilles. Enfin, j'ai reçu mes indemnités. Il y a d'autres joueurs qui ont été bafoués et qui vont faire pareil. Du coup, je me dis, on ne sait jamais. Qui ne tente rien n'a rien.
Vous avez raison.
Voilà. Donc au moins c'est fait. Et puis je sais que si par exemple des agents m'écoutent l'émission. Bon, après je sais que au sein du rugby, j'ai dit toute la vérité, j'ai dit comment ça se passait, j'ai dénoncé les deux personnes. Mais on ne sait jamais si ça peut aller plus loin et que réellement ces personnes-là soient démises de leurs fonctions. Parce que à mon avis, on a au Japon, même si, imaginons le vice-président. A lu ma lettre et qu'il ait eu une réunion avec ces deux personnes-là, ils vont se faire taper sur les doigts et puis on va leur dire ne recommencez plus. Sauf que vraiment, comme il n'y a pas assez de honte qui a été mise, on va dire, sur leur nom ou sur l'image de l'entreprise pour qu'il y ait de plus grosses sanctions, pour que de plus grosses sanctions soient prises, c'est pour ça que j'essaye de lancer une autre alerte à travers votre émission et j'espère que ça sera entendu.
Ce qui est certain, en fait, Nicolas, c'est que ce soir, vous allez parler donc, on est en train d'en parler, hein, de ce club donc, qui est en première ou en deuxième division ?
Deuxième division, je dirais.
Deuxième division, donc ce club japonais mais professionnel de Shimizu, qui, comme vous nous l'avez expliqué, n'est pas un club comme les clubs traditionnels de première et de deuxième division, parce que c'est un club, c'est quand vous signez un contrat, c'est avec une entreprise que vous signez. Donc, ça diffère des autres clubs.
Voilà, parce qu'en fait, donc, dans les autres clubs, ou quand j'ai joué par exemple à Toshiba, j'étais contractuellement lié à Toshiba. Alors qu'à Shimizu, c'est vraiment comme un club en France, des joueurs d'autres voilà, au Japon, donc c'est un championnat corporatif, les Japonais sont des employés de l'entreprise et ils ont des emplois du temps aménagés pour pouvoir jouer au rugby. Et les étrangers professionnels sont contractuellement liés à ce club, enfin à l'entreprise, et dans leur contrat, ils sont stipulés qu'on est employé de l'entreprise mais joueur de rugby. Alors que chez Mizu, il y a des joueurs, par exemple, qui bossent pour Canon, pour Kubota, voilà, pour d'autres entreprises, et les étrangers sont obligés de signer via une tierce société qui s'appelle Tokyo Athletic United, qui est censée nous représenter et avec qui on passe un contrat, et voilà, et suite à ça, on joue pour le club de Shimizu.
Qui est dirigé d'ailleurs par un ancien international de l'équipe du Japon.
Tout à fait, Yoe Shinomiya, oui.
Qu'est-ce qui vous est arrivé exactement pour que ça n'aille plus d'un seul coup ?
Mais écoute, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon agent, courant février, m'annonce qu'elle a entendu une rumeur comme quoi le quota des étrangers serait restreint à partir de l'année prochaine, et que mon quota, puisque je joue grâce à mes origines thaïlandaises, ça s'appelle les Asian Passport Holders, serait supprimé à partir de l'année prochaine. Donc, mon épouse était enceinte de 3 mois à ce moment-là, et j'ai une petite fille d'un an et demi. Je me suis dit, bon, il faut que je sache, parce que j'ai une clause suspensive dans mon contrat stipulant l'arrêt, mon licenciement, si jamais la règle change au sein du championnat. Donc, et il me reste encore une année, du coup, je vais être sûr. Bah, soit d'être licencié là, donc je peux préparer mon retour en France calmement, soit, malgré que la loi passe, je reste au sein du club. Et en fait, je pousse pendant 1 mois, 2 fois par semaine, je demande à mon agent de les appeler. Elle appelle donc Niki Takahiro, qui est le directeur du club, et Yohei Shinomiya, qui est le patron de cette société, mais au sein du club a aussi un rôle de manager. Et ces deux personnes-là gèrent les étrangers, enfin les contrats, quoi. Et du coup, je pense que ça les a énervés que je force, quoi, que je leur demande clairement de savoir, parce que je suis dans une situation assez délicate et je ne pouvais pas attendre juillet ou juin, c'est vers là.
Vous leur avez simplement demandé de se positionner, on est d'accord,
pas plus. De se positionner, voilà, tout à fait. Bon. Ah non, voilà, c'est ça, juste se positionner. Et je pense que ça les a énervés que j'avais juste envie qu'ils se positionnent, quoi.
D'accord. Et suite à ça, donc, vous avez été licencié ?
Voilà, j'ai été licencié. Je suis au club ce mardi 16. Ils sont aussi au club, dans la pièce juste à côté de moi. Je reçois un appel, je vois que c'est mon agent. Je décroche, je lui demande qu'est-ce qui se passe. Et là, mon agent me dit, Nico... je viens d'avoir niqué Yohei au téléphone, t'es viré. Bah, je lui dis pourquoi la règle passe. Et mon agent me répond, non, t'es viré. Et en plus, tu dois partir avant la fin de ton visa qui se termine le 28 mars. Et je lui dis, mais pourquoi ? Parce que c'est bizarre, parce que j'ai donné tous mes papiers, mon visa est en train d'être renouvelé. Et là, elle me répond que oui, mais qu'ils ont stoppé le process de renouvellement. Donc j'ai à peu près 10 jours pour partir, quoi.
C'est carrément incroyable ce que vous nous racontez, en fait.
J'étais sur le cul, quoi, quand elle m'annonça, parce que en soi, ça se passait super bien au club et ils avaient aucune raison de me virer, parce que la loi n'est toujours pas passée, la nouvelle règle n'est toujours pas passée. Donc vraiment, je pense que c'était juste personnel. Ça a dû les vexer que je demande, je sais pas. Enfin. Moi, j'ai trouvé ça qui était une réaction d'enfant gâté, comme ils ont fait un de mes collègues deux semaines plus tôt, qui avait signé un contrat de 3 ans et qui parce qu'il a vexé un des managers, Yohei l'a très mal pris et a dit tu sais quoi, t'es viré. Donc c'est pour ça aussi, ça a joué dans le fait que je voulais absolument qu'il se positionne, parce que pour moi, ça sentait mauvais, quoi. Je me suis dit, on ne sait jamais. Et puis, on avait aussi des doutes sur le bon management du budget, parce que sur, par exemple, nos contrats, nos budgets d'imposition étaient beaucoup plus élevés que ce qu'on payait réellement. Donc, on avait des doutes de détournement de fonds et puis même d'abus de biens sociaux, parce que Parfois, on avait vu à une soirée, il avait dépensé une somme astronomique, et c'était pas sa carte bleue, mais la carte de son entreprise. Donc voilà, c'est un tout qui m'a fait que je voulais savoir et je voulais qu'il se positionne. Ça l'a énervé.
Écoutez, ce que vous nous racontez, c'est que c'est encore ce que je disais au début, c'est que au Japon, il faut filer droit, ne pas demander de compte aux Japonais. Autrement, vous pouvez vite vous attirer les foudres.
Les foudres. Mais oui. Ouais. Surtout quand on est étranger. Et je vous avoue que je le savais parce que ça faisait 6 ans que j'y étais. Mais vous savez, dans ma position, enfin, mon épouse est enceinte de 3 mois. J'avais une petite d'un an et demi, ma femme, si on avait attendu, je ne sais pas, juillet ou août, quand à ce moment-là, la règle aurait été finalement votée ou pas, enfin annoncée officiellement ou pas, mais je ne peux pas attendre ce moment-là, et ma femme, à ce moment-là, imaginons qu'il m'avait viré, elle aurait été à 8 mois, on n'aurait pas pu prendre l'avion, ça veut dire un deuxième accouchement au Japon, et les accouchements au Japon sont extrêmement onéreux. Je me serais retrouvé aussi avec le loyer de l'appartement, il était à 2000 euros par mois, donc beaucoup de frais, et financièrement je ne pouvais pas me le permettre. Voilà.
D'accord.
Et je pense qu'ils n'ont vraiment eu aucune pitié à me virer, à me laisser peu de temps pour partir, et ils ne m'ont même pas aidé. Et puis même pendant ces 10 jours-là, je suis allé au club parce que je ne voulais pas qu'ils puissent utiliser...
Non-présentation à l'entraînement.
C'est ça, quoi. Abandon de poste. Et là, je savais. À ce moment-là, je me suis dit, ils sont vraiment des... Ils sont vicieux. Ils n'ont pas de respect pour les joueurs. Donc, il faut que je sois là jusqu'au bout. Et c'est vrai et aussi, je n'ai pas eu à ce moment-là non plus le courage de demander de l'aide à qui que ce soit, parce que j'avais peur, parce que comme vous dites, au Japon ça file droit, et les seules personnes qui ne filent pas droit, ben voilà, c'est les yakuza. Après, je me suis peut-être monté le bourrichon, mais en 6 ans, j'avais jamais vu quelqu'un traverser au feu rouge, quoi. Donc si quelqu'un commence à détourner de l'argent, à faire de l'abus de biens sociaux, je me suis dit, voilà, vaut mieux attendre d'être en France et d'être sûr que je sois en sécurité pour ma famille et moi-même, et voilà. Donc c'est pour ça que j'ai tout balancé une fois en France.
Vous avez bien fait, même si je pense que ça s'arrêtera là. J'aimerais pouvoir vous dire que ça va bouger, mais je pense malheureusement que la justice japonaise protège de toute façon tout ce qui est au pays, en fait, et que un joueur français... aura du mal à dénoncer des pratiques comme celles que vous avez subies.
Après, au travers de votre émission, encore une fois, c'est juste si jamais quelqu'un l'écoute et entend mon histoire et a des connexions, je ne sais pas, un journaliste français qui connaîtrait très bien quelqu'un, un journaliste japonais qui aurait le courage de le faire, ou même... je sais pas, quelqu'un qui a un blog ou quelqu'un qui est un influenceur, quoi que ce soit, en fait, qui que ce soit plutôt, et qui a de l'influence sur les réseaux sociaux, parce que je pense que ça fonctionnerait plus sur les réseaux sociaux.
Oui, complètement.
Voilà, s'il pouvait m'aider à exposer mon histoire et à les dénoncer pour vraiment qu'ils ne puissent plus agir de telle sorte avec d'autres joueurs, parce que ce sera le cas tant qu'ils seront à leur poste.
Je pense en tout cas que, de toute façon, l'ambassade du Japon, dès demain, va être au courant de votre intervention ce soir sur l'antenne d'Europe 1, et que ça va remonter à qui de droit. Mais bon, encore une fois, je pense que ça n'aura aucun effet. Et si ça en a, vous le saurez. Là où, si vous voulez, on voit combien vous êtes impuissant, c'est que même votre agent n'a rien pu faire. Votre agent n'ayant pas... fait le moindre affront à ces gens-là, aurait pu continuer à discuter avec eux. Mais finalement...
Elle a surtout démissionné sous la pression, quoi. Elle m'a dit « je ne peux plus travailler avec toi ».
Et c'est le sort qui attend tous les rugbyman ou même les professionnels sportifs étrangers qui sont sur le sol japonais, ce que vous avez vécu en fait au final ?
Je ne sais pas, parce que dans mon équipe, il y avait quand même Luke McAllister, une star All Black. Lui a été traité... c'était top, quoi. Il n'a pas eu de problème. Vraiment, enfin, lui, il a eu zéro problème. Alors que, bon, voilà, moi, je ne suis pas une star, je n'ai pas de notoriété. Et j'ai été traité comme un, comme une merde, hein, faut le dire. Et voilà, enfin, je veux juste revenir sur le fait qu'en fait, je veux même pas faire de procès ou quoi que ce soit. Je veux vraiment, parce que je sais que, comme vous le dites, ça servira à rien. Mais je veux que le public, que les personnes soient au courant et qu'en interne, je pense que de toute façon, ça se réglera en interne si jamais ça se passe. Qu'ils soient démis de leurs fonctions, qu'ils ne puissent plus agir de cette façon-là, quoi. Et que vraiment tout le monde le sache, que ce soit les agents, les joueurs, il faut éviter de bosser avec ces types-là parce que ils vous la feront à l'envers, quoi.
Et est-ce que vous avez informé la Fédération française de rugby qui doit de toute façon avoir des liens avec la Fédération japonaise de rugby puisque le Japon joue régulièrement contre la France?
Oui, j'avoue que j'en ai pas parlé.
Vous devriez quand même. Vous devriez.
J'ai pas pensé. Et... Ouais, je pense.
Bah, en tout cas, vous devriez.
Vous devriez en faire part. Vu que c'est sorti sur le Midi Olympique, je me suis dit vu que c'est sorti dans le Midi Olympique, ça doit savoir du coup dans le monde du rugby. Enfin, vu les messages de soutien que j'ai eu et les partages des joueurs de rugby, que ce soit en Top 14, Pro D2 et les niveaux inférieurs. En France, je pense que ça se fait.
Bah, si vous en avez parlé à Midi Olympique, oui, c'est quand même un des journaux du rugby.
Tout à fait. Et au Japon, je sais que voilà, ça se fait je n'ai pas beaucoup de followers, que ce soit sur les réseaux sociaux, mais je sais qu'ils en parlent, ça commence à en parler, etc., dans les clubs, et que maintenant, il y a même d'autres personnes, d'autres joueurs. Qui ont subi ce genre de choses par ces dirigeants qui commencent aussi à en parler et ça commence à faire un tout petit peu de bruit mais encore une fois je pense que c'est trop peu et c'est pas assez rapide quoi.
Mais vous savez en tout cas Nicolas, vous êtes peut-être le premier lanceur d'alerte sur ces méthodes à la japonaise et surtout j'espère que votre message va être entendu par d'autres joueurs hein, qui envisagent de partir jouer au Japon ou qui y jouent déjà. On a Jocelyn qui nous écoute régulièrement du Japon donc je pense que d'autres joueurs sont susceptibles d'écouter Europe 1 aussi là-bas du Japon et au moins en tout cas votre témoignage a la vertu de les mettre en garde. Et puis, de toute façon, je pense que ça va tout de même mettre ces deux personnages un peu véreux, les deux dirigeants dont vous nous avez parlé, qui dirigent donc ce club de Shimizu. Ça va leur revenir aux oreilles, quoi qu'il arrive. Donc, au moins, vous aurez fait le boulot qui s'impose. Et on est bien malheureux pour vous ici, hein, que vous ayez été obligé de rentrer dans ces conditions-là. Ouais. Parce que tout de même... Il y a un irrespect total de votre personne, de se séparer de vous dans ces conditions et puis de vous imposer de partir dans les 10 jours. Si vous n'étiez pas parti dans les 10 jours, vous auriez pu... quelles conséquences aurait pu avoir ?
J'aurais pu finir la saison avec mes potes. J'aurais pu... j'aurais fini, on va dire, par la grande porte.
Moi, j'entendais si, au bout des 10 jours, vous n'aviez pas quitté le sol japonais. Qu'est-ce qui aurait pu vous arriver ?
J'ai même pas envie d'imaginer. Quand j'ai demandé à mon agent, elle m'a répondu que je suis certainement détenu en maison de détention en attendant mon jugement, quoi. J'aurais pas été renvoyé de suite. Vu ce que j'ai lu sur Carlos Ghosn, franchement, ça me donne pas du tout envie. Et c'est pour ça, quoi. J'ai vraiment pas pris le risque. J'ai pas voulu prendre le risque. C'est pour ça que on est parti le plus vite possible, quoi.
Je vous vois mal, balèze comme vous devez être. Je vous vois mal dans une malle à la Carlos Ghosn. Sincèrement.
Ouais,
vous jouez quel poste
Centrailier.
Centrailier, d'accord. Bon, mais vous êtes balèze quand même.
Je veux juste vraiment revenir sur le fait que c'est le fait de deux personnes et non pas tous les clubs. C'est vraiment deux personnes qui profitent du système. Voilà, je pense que comme ils n'ont pas de garde-fou, ils profitent. Ça fait quand même apparemment 5-6 ans qu'ils sont au sein du club et que c'est eux qui dirigent le budget du club depuis ces années-là. Je pense qu'ils sont bien gavés, mais dans les autres clubs, ça ne se passe absolument pas comme ça. C'est réglo, c'est carré. Très honnêtement, s'il y a des joueurs qui veulent aller tenter l'aventure au Japon, il faut y aller les yeux fermés. C'est énorme, je regrette absolument rien. Hein.
Bon,
ça entache mon expérience japonaise. Mais dans 10 ans, quand je reparlerai de ça, je reparlerai j'en garde que des bons souvenirs. Ça, c'est juste, voilà, j'ai pas eu de bol, j'ai pas eu de chance.
Pas eu de bol. Et puis pour les joueurs, voilà, les joueurs qui vont partir au Japon, il faut pas dire qu'ils sont potes avec vous.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Bon, ben, mon cher Nicolas, merci mille fois pour votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1. Puis n'hésitez pas, si les choses bougent, à nous tenir au courant. D'accord ?
Très bien. Ben, merci pour votre temps de parole.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Merci à vous aussi. Au revoir.